20h passées de 14 minutes, émission La Prophétie, hein, tous les vendredis de 20h à 22h. Je vous rappelle que cette émission est proposée par l'association Rencontres et Dialogues, l'association ARD que vous pouvez joindre à la maison des associations 24 Place de la Liberté, 5900 Roubaix. Mehdi à la technique, ce soir, troisième vendredi de chaque mois avec Taïeb Chouilaf, bienvenue à toi, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
On est accompagné ce soir de Faisal. Hein. Il ne prend pas souvent l'antenne avec nous, il reste plutôt discret, mais on l'a obligé ce soir à participer avec nous à cette émission. Taïeb, je vais quand même rappeler, tu as fait un certain nombre de traductions, on te connaît pour ça, tu es déjà intervenu maintes fois ici sur les ondes de Pastel FM dans l'émission La Prophétie, hein, cette année notamment pour une biographie d'un certain nombre d'illustres personnages. On décrira le personnage d'aujourd'hui. Traduction de plusieurs ouvrages, je pense à les ouvrages de Razali ou bien de derniers ouvrages sur la tradition spirituelle du professeur Salem, donc deux tomes. Hein. Alors, Faisal va peut-être nous rappeler les références de cet ouvrage, on peut se les procurer.
On peut se procurer donc les enseignements spirituels du prophète dans les différentes librairies ici à Roubaix et Lille. Il est également disponible sur le site internet www.tasnim.fr et sur Amazon.
D'accord, donc les éditions Tasnim.
Voilà.
Bien. Taïeb, le personnage que tu as choisi d'écrire sa biographie, et bien sûr, on tire un certain nombre d'enseignements, comme à l'accoutumée.
Voilà.
C'est une dame.
Exactement.
Ça change.
C'est très important aussi.
Oui.
De pouvoir, aborder la spiritualité peut-être d'une manière un peu différente, puisqu'effectivement c'est une femme, et puis quelle femme, c'est une des grandes figures de la spiritualité musulmane, quand je dis grande figure, c'est-à-dire hommes et femmes confondus, bien sûr.
Mm-hmm.
Hein. Donc forcément, il y aura un accent peut-être un peu particulier dans cette spiritualité-là.
Ouais, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette dame, c'est Rabiha Al-Adawiya, j'espère que je prononce bien, parce que c'est pas évident. C'est le deuxième siècle de l'Égypte, près de 200 années après l'Égypte, qui a vécu après Hassan Basri, donc c'est un des personnages, un des illustres personnages que tu avais abordé, il me semble, la dernière fois où tu es venu.
Le mois passé, effectivement.
Qui a vécu peu après, donc dans quelle localité, toujours dans le sud de l'Irak, à Basra.
Voilà.
C'est une grande localité où la science et la piété étaient je dirais pas de rigueur, mais qui étaient de monnaie courante, disons.
Exactement. C'est vraiment une des provinces du monde musulman. Une des provinces donc du monde musulman qui a très tôt été un centre, un foyer de science, de spiritualité dans tous les domaines des sciences islamiques, hein, et puis aussi dans le domaine du vécu, disons, de l'expérience spirituelle vécue. Et donc effectivement, Hassan al-Basri, comme son nom l'indique, vient de Basra, mais Rabi' al-Adawiya aussi.
Donc c'est la Perse là-bas, hein. Je veux dire, pas croire que systématiquement il n'y avait que des Arabes qui ont produit un certain nombre de choses. On est dans le contrées persiques,
pas très loin, disons. Limite. Voilà, hein, effectivement, on est un peu au sud, disons, hein, mais c'était une terre évidemment qui n'était pas arabe, hein, à l'époque. Et puis Basra et Koufa aussi, une autre ville qui se situe dans l'Irak actuel, disons, sont devenus donc des grands foyers de science et de spiritualité à l'époque.
Bien, donc on va occuper cette émission autour de ce personnage, donc Rabiha Al-Adawiya. On va essayer d'aborder les grandes étapes de sa vie. Est-ce qu'on a réussi quand même à avoir un certain nombre de retours, si je puis dire, de grands moments de sa vie? Parce que moi, effectivement, j'ai déjà entendu parler. J'avoue mon ignorance, j'en sais pas forcément plus, pour être très honnête.
Voilà.
Et est-ce qu'on a réussi facilement à avoir un certain nombre d'informations et de...
Alors, comme pour tous ceux qui ont vécu à cette époque,
parce qu'on est très loin quand même.
Et c'est vrai aussi donc de Hassan al-Basri, hein. C'est très loin pour nous, et d'une part, et aussi ils ont vécu donc dans les premiers siècles de l'Égypte, dans les tout premiers siècles. Et à cette époque, évidemment, la tradition de l'écrit était quelque chose de très rare. On mettait très peu par écrit. la tradition était essentiellement orale. Le savoir, les enseignements se transmettaient à l'oral. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, on a peu de détails écrits, disons, sur sa vie, mais on sait quand même un certain nombre de choses. Parce qu'à partir du 3e siècle, les écrits ont commencé à devenir courants. Et là, on a mis sur papier les biographies de tous les grands personnages qui ont façonné l'islam, qui ont permis à l'islam de pouvoir se répandre et de pouvoir rayonner dans l'ensemble du monde musulman qui je le rappelle, s'est étendu de l'Andalousie, donc de l'Espagne, jusqu'en Inde. Donc, c'est tout à fait énorme. Alors, Rabia al-Adawiya, elle est née en 95. On dit parfois aussi en 99 de l'Égypte, ce qui fait en 713-715 à peu près, hein, si, de notre ère. Et on sait que sa famille était pauvre, très pauvre, et tellement pauvre même que, encore enfant, elle a été volée, puis vendue comme esclave.
D'accord.
Voilà. Et donc elle a grandi dans la famille qui l'a achetée. Et ses maîtres très tôt ont remarqué qu'elle avait une piété extraordinaire, qu'elle avait une foi qui était vraiment hors du commun, et ils en ont été touchés, et du coup ils lui ont rendu sa liberté. Ils se sont dit, on peut quand même pas décemment garder une personne aussi pieuse et qui est aussi exceptionnelle, parce que il se dégageait d'elle vraiment, elle impressionnait, disons, son entourage, hein, par sa foi et par sa piété. Et donc elle a été libérée à l'âge adulte, et elle a vécu une vie très ascétique, comme Hassan al-Basri, parce que dans les premiers siècles, hein, de l'islam, la spiritualité prenait souvent l'apparence du zohd, de l'ascèse, du détachement du monde. Et donc elle a vécu une vie de retraite spirituelle. Très très souvent elle avait besoin de se retrouver seule pour adorer Dieu, pour être en présence avec Dieu. Et puis elle a vécu aussi une vie de célibat. Elle a choisi de ne pas se marier. Elle a attiré à elle donc un certain nombre de gens qui étaient en quête de savoir et aussi en quête de spiritualité. Et parmi eux, il y a des gens très célèbres comme Sufyan al-Thawri, qui est un grand muhaddith, qui a une place importante dans la transmission du hadith, et qui est aussi un grand faqih. Il a fondé lui aussi une école juridique. Bon, qui était proche, hein, des quatre autres écoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas gardé son nom comme fondateur des écoles juridiques, mais disons qu'il a la stature des quatre imams fondateurs
des
quatre écoles, voilà. Et il venait à elle, donc Sofiane Thaouri, humblement lui poser des questions, profiter de sa foi, de sa spiritualité, et il reconnaissait humblement sa supériorité par rapport à lui. Savoir que non pas qu'elle était plus érudite que lui, parce que lui était vraiment un grand érudit, mais il estimait qu'elle avait une compréhension, qu'elle avait une lumière de Dieu qui lui permettait de comprendre certaines choses avec une finesse plus grande que lui, hein, tout simplement. Et donc il n'avait pas cet orgueil de se dire, mais moi je suis un grand érudit, je suis le grand savant de mon époque. Et non, il allait apprendre humblement auprès d'elle. Alors sa vie personnelle, donc, comme je l'ai dit, est essentiellement vouée à l'adoration. On rapporte qu'elle faisait 1000 rak'at par jour de prière nawafil, donc de prière surérogatoire, ce qui est tout à fait énorme déjà. Et après la prière du Isha, elle implorait Dieu donc en ces termes. Elle disait donc, assoupis sont les yeux et inconscients sont les oublieux. Rabi'a, la pécheresse, demeure face à toi. Ici, elle s'adresse à Allah, bien sûr. Daigne sur elle jeter un regard qui l'aidera à résister au sommeil afin de t'adorer. Par ta gloire et ta puissance, je ne saurais dormir ni de jour ni de nuit, qu'emporté par le sommeil, jusqu'au jour où je te rencontrerai. Donc elle, dans ce dua, donc, hein, elle disait donc, قد نامت العيون وغفل الغافلون وبقيت رابعة الخاطئة بين يديك فلعلك تنظر إليها نظرة تمنعها بها من النوم عن خدمتك ثم تقول وعزتك وجلالك لا أنام عن خدمتك في الليل ولا في النهار إلا غلبة حتى ألقاك. Après donc avoir accompli, je disais, 1000 rak'at par jour, après la prière du Aïcha, qui est la dernière prière donc de la journée, elle implorait donc Dieu en ces termes, ce qui est tout à fait incroyable. Elle avait l'impression que c'était très peu, trop peu, et elle avait donc honte de s'endormir. Et elle, donc, elle disait à Dieu qu'elle souhaiterait ne pas s'endormir pour continuer donc à l'adorer, et que si elle s'endort, c'est vaincue par le sommeil et non pas par une décision personnelle de, qui consisterait pour elle à se dire je, maintenant il est temps que je me repose. Donc on voit là qu'elle avait une exigence hors du commun, et elle et ça n'est pas quelque chose qu'elle a choisi, disons, évidemment, ça n'est pas quelque chose qu'elle s'est imposé, c'est pas une, comment dire, une façon de se martyriser, hein. C'est simplement une vocation qui était présente en elle et à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Elle se sentait appelée par ça, appelée par ce, le fait de se consacrer entièrement à Dieu. Et en même temps, donc on voit que cette consécration à Dieu est accompagnée d'une, d'une humilité incroyable, parce que elle s'appelle elle-même Rabi'a al-Khati'a, Rabi'a la pécheresse, celle qui ne cesse de pécher, alors que elle passait sa journée en adoration. Okay. Voilà. Alors, on a d'autres témoignages encore, hein, de sa piété. Donc, un jour, elle a veillé toute la nuit. Donc, elle avait entre guillemets réussi à ne pas céder au sommeil. Et puis, après la prière du sobh, elle a quand même été gagnée par le sommeil. Et puis, elle se réveille en sursaut et elle s'est exclamée « Oh âme, jusqu'à quand dormiras-tu ? Tu t'endormiras bientôt pour un sommeil dont tu ne sortiras que pour le jour du jugement. » On voit là, à travers encore cette anecdote, que pour elle, ce qui est le plus important, c'est de se préparer pour le jour de la rencontre avec Dieu. Et cette préparation, elle estimait que toutes ses forces, toute son énergie doivent être mises dans cette préparation-là. Et que toute autre chose serait pour elle comme une perte de temps, comme un gaspillage de d'un temps qui est très précieux et dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Elle disait donc à son âme, tu ne fais que dormir, quand te réveilleras-tu? À savoir, l'importance de la préparation pour le jour du jugement est tellement grande, elle avait tellement une conscience très forte, disons, de cette importance-là, que ça emportait tout le reste, et qu'elle n'arrivait plus, entre guillemets, à s'intéresser à autre chose, et puis à accomplir ce que d'autres pouvaient accomplir. Alors, bien sûr, son entourage et les gens comme Soufiane Thaouri se rendaient bien compte, hein, que tout le monde ne peut pas vivre comme elle, tout le monde n'est pas appelé à vivre comme elle, tout le monde n'a pas la vocation non plus. Mais ils avaient conscience aussi que ce genre de destin est important dans la communauté, parce que ça marque quand même un certain idéal, ça marque quand même les esprits, et c'est un rappel très fort. Même si tout le monde ne peut pas se consacrer entièrement, le fait qu'il y ait des gens qui se consacrent, eh bien c'est un rappel vécu et vivant. On a devant ses yeux l'exemple que finalement cette vie n'a d'importance que parce que elle prépare à l'autre. Oui, oui, oui. Et c'est en ce sens où il trouvait qu'elle avait une grande place dans la vie de la communauté. Hein, pas en tant que modèle, on va dire, à suivre à la lettre, mais en tant que rappel, hein, et témoignage de l'au-delà. Et elle-même, finalement, bon, elle n'a pas réfléchi à son propre destin, hein, mais elle-même, disons, était comme dépassée par cette vocation spirituelle et par cet amour de Dieu qui brûlait en elle. On verra tout à l'heure un de ses poèmes dans lesquels elle exprime son amour à Allah, Azza wa Jal, et on voit que c'est tout à fait étonnant. Elle était entièrement prise par l'amour de Dieu, il n'y avait plus de place pour l'amour d'autre chose en elle. Alors, même si, comme je viens de le dire, ce sont des destins exceptionnels, il n'empêche qu'ils mettent l'accent sur certaines parties de l'enseignement du prophète. On sait que le prophète avait cette capacité d'être entièrement tourné vers l'au-delà et en même temps d'être capable d'accomplir son devoir sur terre et sa mission sur terre. Mais, par exemple, dans le détachement qu'elle a incarné et dans le recul qu'elle a pris par rapport à la vie mondaine, à la vie profane, on retrouve par exemple un hadith qu'elle a beaucoup médité, que Hassan al-Basri avait lui-même beaucoup médité, c'est « Izhad fi dunya yuhibbak Allah »« Détache-toi de ce monde et Dieu t'aimera. » Alors, Hassan al-Basri, lui, l'a beaucoup médité parce qu'il était très porté sur ce détachement. On peut dire que tout son enseignement porte sur ça, sur le zohad, le détachement. Mais elle, c'était surtout l'amour de Dieu qui l'interpellait. Et donc, en entendant que le prophète a dit « Détache-toi du monde, Dieu t'aimera », elle n'a pas pu faire autrement que de le mettre en pratique, on va dire, entièrement et totalement. Et donc elle a même fini par, on pourrait dire, incarner même ce hadith, c'est l'incarnation même du détachement du monde pour chercher cet amour de Dieu, pour essayer de s'approcher de cet amour de Dieu. Alors j'ai dit qu'elle a donc vécu célibataire, ça n'est pas faute d'avoir été demandée en mariage, évidemment. La piété était une
qualité recherchée,
grande, voilà, une vertu extrêmement recherchée. On sait que le prophète a dit, hein, il y a quatre raisons pour lesquelles on peut vouloir se marier: la beauté de la femme, l'argent de la femme, la lignée, sa généalogie de la femme et sa foi. Hein, et puis il a terminé en disant, choisis donc ton épouse pour sa foi. Évidemment, dans la culture de Basra à l'époque, beaucoup d'hommes recherchaient donc avant tout cette piété. Et puis, celle qui apparaissait le plus,
répondre à ses critères.
C'était donc Rabi'a. Donc, elle qui voulait être en retrait, finalement, elle était extrêmement demandée. Et donc, un jour, le gouverneur de Basra, justement, Mohammed ibn Sulayman al-Hashimi, la demande en mariage. Et malheureusement, il a été un peu maladroit, disons qu'il savait peut-être pas très bien à qui il avait affaire et la spiritualité de cette femme. Et puis, il met en avant donc ses richesses en lui disant, voilà, je te demande de m'épouser et puis sache que j'ai une rente de 80 000 dirhams par jour. Alors, c'était pas très bienvenu, disons, pour Rabia, qui lui a répondu dans une lettre, donc: renoncer aux biens matériels repose le corps et les désirés engendrent le souci et la tristesse. Prépare ce que tu emporteras le jour du grand retour. Quant à moi, même si Dieu m'accordait le double de ce que tu possèdes, je ne saurais m'en réjouir, ni même me détourner de son invocation. Il lui présente donc sa demande de mariage avec, en mettant en avant donc les richesses du monde qu'il a. Et ce qui est, disons, important dans sa réponse, c'est pas simplement qu'elle lui dit non, c'est qu'elle lui donne un enseignement et qu'elle lui transmet donc une guidée. La première chose donc qu'elle lui dit, c'est que c'est le renoncement au bien matériel, ou le recul, disons, par rapport au bien matériel, qui apporte la paix du corps et de l'esprit. Et ça, c'est encore un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Az-zuhdu yurihu al-qalb wal-badan » le détachement du monde repose le cœur et le corps. Et donc, c'est cet enseignement-là qu'elle lui met en avant. D'ailleurs, elle lui donne aussi le reste du hadith, sans dire que c'est un hadith, quand elle lui dit que désirer les biens du monde n'engendre que soucis et tristesse. Et effectivement, le fait d'être attaché, trop attaché, disons, aux choses matérielles, ne peut qu'alourdir l'esprit, ne peut que générer angoisse, soucis et tristesse, parce que on s'attache à des choses qui sont évanescentes, qui ne sont jamais garanties. Même celui qui a les plus grandes richesses du monde, qui a toute la sécurité possible que ses relations peuvent lui apporter, en fait, il n'est jamais à l'abri de rien, parce que une tempête peut tout détruire, un tremblement de terre peut tout avaler, etc., etc. Il n'y a pas de sécurité dans le matériel. Il n'y a pas de sécurité en ce bas monde. La sécurité se trouve dans ce qui est permanent, dans ce qui est immuable, dans ce qui n'est pas périssable. Et c'est ça qu'elle lui rappelle ici. Elle dit que au lieu de construire sur du sable, faut construire sur du solide, sur ce qui ne périt pas. Et donc elle lui dit, prépare-toi pour le jour du grand retour. Plutôt que de passer sa vie donc à accumuler des choses que l'on perdra forcément un jour ou l'autre, il faut donc préparer quelque chose que l'on emportera avec nous pour l'éternité. Alors, c'est simple, on va dire, comme enseignement, bien sûr, mais en même temps, c'est très profond, parce que c'est sur cela qu'elle a bâti toute sa foi, toute sa spiritualité. Et le matérialisme, aujourd'hui, évidemment, on a atteint des degrés de matérialisme qui sont énormes aujourd'hui. Et on voit qu'en parallèle, on atteint des degrés d'angoisse, d'anxiété, de déprime, voire de dépression, jamais égalés non plus. Les quantités astronomiques d'antidépresseurs qui sont consommés tous les jours dans le monde, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Alors quand on lit donc ce hadith que l'attachement au bien matériel génère le souci et la tristesse, on se dit que effectivement il y a une sagesse là à prendre, hein. Il y a une sagesse qui est indéniable et qui est confirmée au jour le jour. Alors donc du coup elle a repoussé ses avances comme elle a repoussé les avances d'autres personnes qui n'ont pas compris disons sa vocation et qui n'ont pas su non plus être à son niveau. On peut imaginer aussi que si elle avait rencontré un homme qui comprenait sa vocation, qui comprenait sa spiritualité, elle se serait peut-être mariée effectivement. Mais il faut croire que ça n'a pas été le cas et donc elle est restée célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Alors, on rapporte aussi un certain nombre d'éléments extraordinaires sur elle, ce qu'on appelle El Karamat. Les événements extraordinaires que la théologie musulmane appelle El Karamat sont l'équivalent pour les sages et les saints de ce que les prophètes vivent comme miracle, hein, qu'on appelle El Mu'ajizat. Le miracle est réservé aux prophètes, seuls les prophètes reçoivent ce don de Dieu qui est d'accomplir donc des miracles, mais les awliya, Allah, les pieux serviteurs de Dieu peuvent aussi vivre dans leur vie des événements extraordinaires qu'on appelle donc karamat, hein. Et ces karamat, donc c'est la croyance au karamat est un élément de la aqida en islam, hein. Comme on doit croire aux miracles des prophètes, on doit croire aux prodiges des saints et des sages. Et elle-même, donc, elle a vécu un certain nombre de choses assez extraordinaires qui sont rapportées par Razali, qui sont rapportées par Ibn Kathir, qui sont rapportées par d'autres aussi. Hein. Par exemple, quand elle a accompli son pèlerinage, elle est partie à Dodane pour accomplir ce pèlerinage. Et puis, sur la route du retour, son âne est mort alors qu'elle était encore dans le désert. Et elle a imploré Dieu. Elle a imploré Dieu donc de lui rendre la vie à sa monture pour qu'elle puisse arriver à bon port et qu'elle puisse donc rentrer chez elle. Et là, son âne s'est relevé. Elle est montée sur son âne et arrivée chez elle devant sa porte, donc elle descend de son âne et là son âne s'est écroulé et il était mort. Alors les ulama expliquent que les karamat ont une raison différente des mu'ajizat des prophètes. Le mot arabe mu'ajiza, qu'on traduit donc par miracle, veut dire, si on traduit littéralement, veut dire ce qui rend impuissant. C'est-à-dire que le miracle donné à un prophète, il est là pour rendre impuissants les négateurs, c'est-à-dire ceux qui traitent de mensonges le message que le prophète apporte. Le miracle vient, disons, imposer quelque chose de très fort et il est le signe, on pourrait dire, du soutien de Dieu à ce prophète. D'où le nom Mu'ajiza, rendre impuissants les autres, les négateurs. Karamat vient de Al-Karam, la générosité. Donc là, il ne s'agit pas de défendre un message ou d'imposer quelque chose, c'est plutôt un don généreux que Dieu fait à celui qui se montre sincère, à celui qui s'attache à Dieu plus qu'à toute autre chose. Comme Rabi'a était attachée à Dieu plus qu'à toute autre chose, elle était exaucée, elle était écoutée, disons, hein. Elle était écoutée par Allah. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a donné des exemples de karamat, puisqu'il a cité l'histoire de trois jeunes hommes qui sont, lors d'un voyage, ils sont entrés dans une grotte. C'est une histoire qui est assez connue, hein, à travers le hadith. Et puis, durant leur sommeil, un rocher est venu boucher la sortie de cette grotte. Puis ils se sont dit, alors, évidemment, c'est impossible de bouger un rocher de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. Ils se sont dit, là, notre seule chance, c'est d'implorer Dieu. Et on va implorer Dieu en demandant donc à l'aide de Dieu, en mettant en avant nos bonnes actions. Chacun donc implorait Dieu en disant, voilà, un jour j'ai fait ça pour toi. Par exemple, un des jeunes hommes était assez riche. Et il avait une cousine qui était dans le besoin. Et cette cousine lui a demandé de l'aide. Et lui a dit, oui, je t'aiderai si tu t'offres à moi. Et donc, elle est venue. Il lui a donné son argent. Puis à ce moment-là, elle lui a dit, ne me touche pas et crains Dieu. Et à ce moment-là, il a eu cette crainte et puis il a prêté l'argent et il a laissé donc cette cousine. Et dans son dua, il rappelle ça à Dieu. Il rappelle que j'ai fait cet effort pour toi. Et la pierre a bougé donc un peu et les trois donc ont fait la même chose. Chacun a rappelé une action de sincérité et la pierre a bougé de manière miraculeuse et ils ont pu donc sortir. Et donc ce hadith qui est très connu, hein, qu'on trouve dans Nawawi et dans d'autres, dans Bukhari évidemment et dans d'autres recueils, et souvent cité par les ulama comme une preuve de karamat, de ce qu'on appelle donc al-karamat. Et c'est ça ici que a vécu Rabi'a, et on verra tout à l'heure d'autres karamat dans sa vie.
On va s'opérer une courte pause, 20 ans passés de 42 minutes. Mardi, tu nous as calé quelque chose. Je rappelle le numéro du standard, éventuellement 03 20 73 59 00, si vous avez des questions sur la thématique de ce soir. On se retrouve d'ici quelques 2-3 minutes. Donc Mahdi qui nous a calé un peu de récitation dans le Coran, 20h passé de 50 minutes, on reprend sur la thématique de ce soir avec Tayeb, hein. Sur l'illustre personnage Rabi'a al-Adawiyya, et l'amour de Dieu, on a intitulé cette émission comme ça,
bien sûr,
parce qu'elle a fait preuve de grande piété et qu'elle était traditionnellement reconnue comme étant quelqu'un qui a fait passer l'amour de Dieu avant toute chose, avant l'amour de beaucoup de choses. Et on l'a rappelé à l'instant à travers des petites anecdotes qu'on a reçues de sa vie. On va reprendre, on était sur alors j'aurais peut-être pas façon de préciser les choses en arabe, mais on parlait de karamet, c'est ça
exactement,
j'ai bien prononcé,
c'est bien.
Donc le fait, enfin je veux dire,
d'événements extraordinaires,
voilà, pas au sens miraculeux qui était réservé à nos prophètes, mais pour les personnes pieuses, il y avait ce genre de,
bien sûr,
de choses extraordinaires qu'on
pouvait, tout à fait, oui.
Et donc on avait cité effectivement une anecdote, mais je pense que c'est pas la seule.
Non, effectivement il y en a d'autres, en fait, hein. Sa vie a été marquée par beaucoup donc de karamat, d'événements extraordinaires. On rapporte donc aussi qu'une fois elle était endormie Et puis chez elle, et un voleur s'est introduit chez elle et a rassemblé ses vêtements et puis s'est dit voilà, je vais au moins prendre ça et puis je vais revendre ça, ça me fera un petit butin. Et il prend donc les vêtements dans une main, il se dirige vers la porte et là il ne trouve plus la porte. Et je suis pourtant bien entré par ici. Mmh. Donc il pose les vêtements pour aller tâtonner. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas de lumière ni à l'intérieur des maisons ni à l'extérieur. Donc quand il fait noir, il fait très noir, sauf si c'est une nuit de pleine lune. Donc il tâtonne. Effectivement, la porte est là. Il retourne rechercher les vêtements. Il le reprend à la main. Il s'avance. Plus de porte. Mmh. Alors il repose les vêtements et il tâtonne. Et effectivement, la porte est là. Et il fait ça à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'il reprend les vêtements à la main, il ne voit plus la porte. Il a l'impression qu'il n'y a plus de porte, il y a comme un mur devant lui. Mmh. Et puis, à un moment donné, il entend une voix qui lui dit « Dépose ses vêtements. Nous en sommes les gardiens. Tu ne les emporteras pas, même si elle est endormie. » Alors, il était évidemment surpris et choqué même par cette voix. Et les citations qu'on a de cet événement sont souvent commentées en disant que on a dans cet événement extraordinaire une illustration du verset où Allah dit لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. C'est un verset donc de la sourate 13, la sourate Ar-Ra'd, c'est le verset 11, qui dit donc en substance, hein, il a des anges qui se succèdent devant et derrière lui, assurant sa sauvegarde par ordre de Dieu. Hein, ici donc ce verset insiste sur le fait que le serviteur pieux peut être entouré d'anges qui vont le protéger, qui vont le préserver et qui sont donc envoyés par Dieu pour préserver un être qui se montre particulièrement fidèle à Dieu. Voilà. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est que habituellement ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas, bien sûr. Mmh. Et là, cet événement montre que ben, ça s'est entendu à ce moment-là. Ce genre donc d'événement qui nous bouscule un peu, bien sûr, hein, qui bouscule notre raison, notre façon de percevoir les choses, nous rappelle quand même la toute-puissance d'Allah. Tout est possible pour Dieu, tout est facile à Dieu. Hein, il est puissant sur toute chose. Et dans les différents textes de l'Aqida, c'est-à-dire le dogme du musulman, il est stipulé donc que les karamats sont un élément de la foi et qu'il faut croire donc dans les karamats. Mais il est stipulé aussi que les karamats existeront dans la communauté jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui est réservé à une époque ou au premier siècle de l'islam. Hein, je veux dire, dans toutes les aqidas, que ce soit celle de Razali, que ce soit celle de Ibn Taymiyyah, il précise bien que effectivement c'est quelque chose qui existera toujours. Mm-hmm. Alors c'est forcément un peu rare, bien sûr, hein, mais ces événements sont possibles même à notre époque, je veux dire, hein, rien ne l'empêcherait. Voilà, donc on a là un petit peu le tableau, hein, d'une femme qui consacre entièrement sa vie à Dieu, qui est reconnue par toute la communauté et qui devient un exemple, qui est suivi donc par des savants, par des ulamas, par des gens simples, par des gens du peuple. Et ça montre bien que le fait qu'elle soit une femme, peut-être que ça a joué, disons, sur sa sensibilité particulière, sur le fait qu'elle soit particulièrement tournée vers l'amour de Dieu. Mais ça montre aussi qu'à l'époque, il y avait aussi une grande place pour la spiritualité féminine. Et que le fait qu'elle soit une femme n'empêchait pas les hommes d'aller chercher son enseignement, d'aller de devenir entre guillemets élève et disciple sans en éprouver disons une fierté sans être bloqué disons par une fierté malsaine que voilà. Disons que on a l'impression que une figure comme Rabi' al-Adawiyya serait plus difficile à rayonner aujourd'hui qu'à l'époque, qu'au deuxième ou troisième siècle de l'Égypte, ce qui est étonnant parce qu'on parle souvent de l'évolution des mœurs, dire qu'il y a plus on est allé vers plus de place pour la femme, etc. Je crois qu'on a souvent une vision assez négative du passé, une vision assez négative surtout des premiers siècles de l'islam. Donc c'est une vision ignorante effectivement, parce que les autorités religieuses, donc les savants, disons, n'étaient pas exclusivement des hommes. Il y avait des savantes qui étaient reconnues comme telles et qui avaient donc par leur piété, par leur foi et par leur sincérité le même rayonnement que les hommes. D'ailleurs, il y a des recueils entiers qui ont été faits, des recueils de biographies sur les saintes femmes de l'islam. Ibn al-Jawzi, par exemple, a écrit un recueil entier de biographies de femmes saintes en islam. Au XVIIe siècle, l'Égyptien Abd al-Raouf al-Mounawi a écrit donc un recueil de biographies de tous les grands hommes de l'islam, de tous les grands hommes spirituels de l'islam, et il a consacré une grande partie donc aux femmes. Ibn Arabi lui-même, qu'on appelle parfois Sheikh al-Akbar, le plus grand maître de la spiritualité musulmane, a eu parmi ses maîtres spirituels des femmes. Il cite une certaine Fatima Nouna qui vivait à Séville, donc dans l'Andalousie à l'époque, et il dit qu'elle avait 90 ans à peu près quand il l'a connue, et que elle était pour lui un de ses plus grands maîtres spirituels. Vous voyez. Donc on voit que cette spiritualité féminine a toujours existé, qu'elle a toujours été présente, et que le problème premier pour les anciens n'était pas de se demander si on a affaire à un homme ou à une femme, il était de se demander si on a affaire à un être sincère et pieux ou pas. C'était ça finalement le plus important, et ils étaient tout à fait capables de reconnaître la grandeur spirituelle d'où qu'elle vienne, quel que soit disons le support de cette grandeur spirituelle.
Oui, j'avais juste, on a une idée de la façon dont elle a pu être, enfin elle-même, parce que bon, l'enseignement qu'elle a pu retirer du prophète saint salem, elle a subi elle-même avec un maître spirituel, ou bien
non.
On n'a pas d'idée sur
si on sait en fait qu'elle était assez solitaire en fait, et donc elle n'a pas suivi disons d'enseignement spirituel particulier. Elle était c'est une spiritualité très simple disons, elle n'était pas érudite, c'est d'accord. Pas quelqu'un qui était très érudite,
avec le peu de science qu'elle avait, elle avait à 1000% si je puis dire mis en pratique les enseignements qu'elle a pu recevoir.
C'est ça, exactement. Par exemple, un jour Soufiane Thaouri, donc le fameux muhaddith dont j'ai parlé tout à l'heure, vient la voir et elle lui pose une question. À ce moment-là, c'est ce jour-là, c'est elle qui l'interroge. Elle lui dit: comment définissez-vous la générosité, as-sakha? Donc comment définissez-vous, c'est-à-dire vous, les gens érudits, les gens qui connaissaient bien les textes, les gens qui avaient appris des milliers de hadiths par cœur, comment définissez-vous la générosité? Et il lui dit: pour les gens attachés à ce monde, la générosité est le don de leurs biens, de ce qu'ils possèdent. Et pour les gens de l'autre monde, elle consiste à faire du don de leur âme. C'est-à-dire que bon, les gens attachés à ce monde seront généreux s'ils donnent de ce qu'ils possèdent, et les gens attachés à l'autre monde seront généreux s'ils donnent de leur temps, s'ils donnent de leur énergie, s'ils donnent de leur science, s'ils donnent de tout ce qui est immatériel, disons. Donc c'est un peu comme ça qu'il lui présente. Et elle lui dit: non, vous faites erreur. La générosité consiste à adorer Dieu pour l'amour de lui et non en vue d'une récompense ou d'une compensation. Mmh. Et donc, en lui disant cela, elle, qui n'est pas spécialiste du hadith, hein, se retrouve beaucoup plus proche du hadith, de l'enseignement donc du prophète, que Sofiane Thawri. Pourquoi ? Parce que le prophète lui-même a distingué entre les gens de ce monde, les gens de l'au-delà et les gens de Dieu. Quand mm-hmm. il a dit Dunya haram ala ahl al-akhirah. Wa al-akhirah haram ala ahl al-dunya. Wa dunya wa al-akhirah haram ala ahl Allah. Donc il a dit ce monde est interdit pour les gens de l'au-delà. C'est-à-dire que les gens de l'au-delà ne doivent pas s'y accrocher, ne doivent pas le faire rentrer dans leur cœur. Et l'au-delà est interdit aux gens de l'ici-bas. Mais il a rajouté, l'ici-bas et l'au-delà sont interdits aux gens de Dieu. Et finalement, c'est ça qu'elle lui rappelle ici. Parce que Sofiane parle des gens attachés au bien matériel et puis des gens qui recherchent l'au-delà, c'est-à-dire qui recherchent le paradis, qui recherchent donc la récompense de Dieu, qui agissent pour obtenir cette récompense de Dieu. Et elle dit non, ça n'est pas de la générosité, parce qu'il y a une compensation. Ils recherchent une compensation, qui est le paradis. Mais ceux qui agissent par pur amour de Dieu, selon elle, sont les vrais généreux, parce qu'ils donnent sans rien attendre. Ils donnent parce qu'ils aiment Dieu. Ils font don de ce qu'ils possèdent, mais aussi de ce qu'ils sont, par amour de Dieu. Et là, on peut dire qu'on est au cœur de son enseignement, en fait, de l'enseignement de Rabi' al-Nahdawiyya, qui est de dire que si on ne fait pas les choses par pur amour de Dieu, alors notre sincérité n'est que partielle. Elle est limitée. Parce que on agit par intérêt. Alors certes, avec un intérêt qui est légitime, je veux dire, quand on agit en recherchant l'au-delà, il y a évidemment une certaine légitimité. Mais pour elle, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'égoïsme, qui est de l'ordre de la de l'intérêt personnel. Hein. Et ça, elle ne le voulait pas pour elle, et elle a trouvé que c'était indigne de l'amour de Dieu. Alors, donc toute sa vie, elle a essayé de témoigner de cela, et elle voyait que, évidemment, c'est un message qui est difficile à faire passer, c'est un message qui bouscule aussi les mentalités, et puis c'est aussi un message qui peut être rejeté parce que les gens se disent « Ah, mais moi, je suis pas capable d'aller jusque-là, on me demande l'impossible. » Déjà, le fait d'agir par recherche du paradis, c'est déjà pas facile, parce que des fois on est quand même tenté d'agir pour des raisons bassement matérielles. Alors si en plus, même ça c'est pas bon, qu'est-ce qui nous reste? Donc elle se rendait bien compte que c'était pas un message qui était facile à faire passer. Et alors une fois, on l'a vu promener avec un seau d'eau et une torche à la main. Et on lui dit, mais ya Rabi'a, que fais-tu avec ce seau d'eau à la main et cette torche de l'autre main? Et elle a dit, cette phrase qui est un peu de la provocation, hein, elle a dit, cette torche est pour brûler les délices du paradis et ce seau d'eau pour éteindre les flammes de l'enfer, parce que j'aimerais que Dieu soit adoré pour lui-même, par amour de lui. Et on voit donc dans cette anecdote que elle se rendait compte que le message de l'amour de Dieu est pas facile à faire passer, et que du coup l'exemple concret pour frapper l'imagination était quelque chose donc qu'elle a elle-même utilisé au risque de déranger, de scandaliser, de bousculer.
Oui, je veux dire, tu l'as dit, on rassurer un peu les auditeurs et les auditeurs, qu'effectivement que analyser et prendre connaissance de ce genre de personnage, hein, c'est surtout en guise de rappel aussi d'un idéal, que bien sûr ce genre de comportement est possible,
bien sûr.
Qui est pas forcément donné à tout le monde certes, mais que c'est comme l'enseignement du prophète sallam, il est par excellence le top des top, si je puis dire, mais que bien entendu l'objectif étant de s'y approcher le plus possible
et de s'en inspirer.
Donc voilà, par rapport à effectivement ce dont tu viens de te dire, moi aussi j'étais quelque peu un peu bousculé, mais c'est vrai que effectivement la recherche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, indépendamment de la récompense qu'il nous promet, on l'aborde pas, c'est lui-même qui l'a promet, mais de chercher indépendamment de ça, c'est vrai que c'est pas chose facile, me semble-t-il.
Non, bien sûr.
Bien sûr, tout à fait. Mais comment est-ce que quelqu'un en fait qui vit actuellement au quotidien peut profiter de cet exemple-là à son niveau? Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait de la vie d'une telle personne?
Alors, quand on donne donc des exemples sur des gens qui ont vécu un tel degré de spiritualité, une telle élévation intérieure, comme on vient de le rappeler, hein, c'est effectivement d'abord à titre d'inspiration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on ne sait pas qu'une chose existe, on peut certainement pas s'en inspirer, on peut certainement pas aspirer non plus vers cette chose. Donc la première étape, c'est savoir que cela existe, que c'est une possibilité humaine et que la médiocrité humaine, ça n'est pas la norme humaine, et que la volonté du moindre effort, ça n'est pas non plus la norme humaine, et que quand on se donne un objectif très élevé, ce n'est pas forcément pour atteindre cet objectif, c'est parce que l'objectif élevé nous pousse à nous surpasser, à aller au bout de nos possibilités. Parce que on ne se connaît pas à la base, on ne se connaît pas a priori, on se connaît dans les faits. C'est les faits qui révèlent ce que l'on est. Donc on ne peut pas se dire telle chose, ça n'est pas pour moi, ou telle chose, ça m'est impossible. C'est quand on essaye une chose qu'on se rend compte que ben finalement, là j'arrive à une limite. Ce qui veut dire que les exemples élevés sont très importants dans la foi du croyant. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé des recueils biographiques. Pourquoi tant de savants ont passé leur vie à écrire des recueils biographiques dans lesquels on a des personnages comme Hassan al-Basri, comme Rabi' al-Adawiya, comme al-Junayd, etc. Justement pour cette fonction-là. Pour que ces exemples sublimes puissent nous inspirer. Alors bien sûr que ça n'est pas quelque chose auquel il faut s'identifier à la lettre. Mais disons que ça va nous ouvrir des horizons insoupçonnés. Ça va ouvrir pour nous des horizons. Et par exemple, Al-Ghazali donc, cite assez souvent Rabi' al-Adawi, on le verra donc tout à l'heure. Il commente aussi ses paroles et il le fait dans un but tout à fait pédagogique. Quand il cite les paroles de Rabi'a, il explique bien que c'est quelque chose de très élevé, de très profond. Et lui, dans son souci pédagogique qu'il a toujours, hein, dans son ihya, dans sa revivification des sciences de la religion, il va montrer par quelles étapes progressives et successives on peut se rapprocher de ces modèles. Hein. Parce qu'encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que dans les premiers siècles de l'Égypte, l'enseignement n'est jamais quelque chose de très développé. Il n'y a pas de... On n'écrit pas de livres, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, et on ne disserte pas très longuement sur ce qu'est la vie spirituelle. On donne des mots, des phrases, des exemples, souvent des choses très brèves qui sont là pour nous réveiller, nous mettre en route. C'est seulement à partir de l'époque de Razali que les traités ont commencé à être explicatifs, qu'ils ont commencé à être très détaillés, où on est très pédagogique, où on explique, voilà, on démarre de là, on évolue progressivement, lentement, on arrive là, et enfin, on arrive plus tard là. C'est quelque chose qui est arrivé donc plus tard, parce que, à l'époque, simplement, la question ne se posait même pas. L'ambiance était d'abord très spirituelle, les gens avaient des prédispositions très fortes pour la spiritualité, et donc il suffisait de quelques phrases, de quelques mots, pour pouvoir faire comprendre à ceux qui sont aptes à le comprendre tout un enseignement et tout un message spirituel. Si Razali a écrit des milliers de pages et qu'il a donné un tel volume à son Ihya, il y a plusieurs milliers de pages dans son Ihya, ça n'est pas pour assommer le lecteur, bien sûr, hein, c'est parce qu'il sait qu'on doit détailler. On doit maintenant décortiquer, expliquer, couper les choses en quatre pour essayer de compenser le manque d'intuition spirituelle. Si on se contente de répéter les sagesses que les anciens ont dit, ça va, ça rentrera dans une oreille, ça sortira par l'autre oreille. Parce que il n'y a plus cette sensibilité du cœur qui fait qu'on est capable de comprendre en une phrase ou deux phrases. Donc voilà, donc Razali, quand il cite Rabi'a, il sait qu'il doit expliquer, il doit délayer, hein, il doit mettre à la portée de son lecteur.
Mmh. C'est, juste pour rebondir aussi, c'est vrai que quand on lit la biographie du prophète Sassanem, on pourrait toujours aussi se dire qu'effectivement, en tant que prophète et le sceau des prophètes, hein, et quel prophète, on pourrait se dire effectivement, c'est peut-être un petit peu bien au-delà de ce que nous, on peut essayer d'accomplir.
Bien sûr. Bien sûr.
Donc il y a une sorte de mythe, si je puis dire, ou de niveau qu'on ne pourrait pas atteindre. Tandis que quand on fait l'analyse effectivement de gens du commun, c'est-à-dire des personnes qui sont a priori... qui pourrait être comme nous, qui pourrait être comme notre voisin, c'est vrai que ça, que je dirais pas que l'enseignement professionnel ne nous apporte pas grand chose, mais je veux dire, ça, il y a peut-être une approche un petit peu plus, plus facile, si je puis dire, même si les degrés, parfois, mm-hmm. comme, pour citer Rabi'a, mm-hmm. qui est quand même un degré assez élevé, je veux dire, en tout cas, c'est accessible, puisque elle-même a eu cette attitude par la compréhension de comportement et des enseignements du professeur Sassan.
Bien sûr.
Le fait qu'avec, et comme la communauté musulmane cherchons normalement la perfection dans les enseignements et dans les actions, voilà. C'est ce sur quoi, vers quoi, on doit tendre, me semble-t-il.
Bien sûr, tout à fait. Alors, pour donner un exemple, en fait, d'enseignement très synthétique, c'est-à-dire très court, très dense et en même temps qui contient des trésors, disons, de spiritualité, on lui a demandé comment elle considérait le paradis. Et elle a répondu « Al-jar thummad-dar », le voisin et ensuite la maison. Et c'est devenu donc un proverbe arabe, hein, qui est très connu. On dit qu'il faut d'abord faire passer son voisin avant nous-mêmes, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Al-Ghazali cite donc cette parole dans l'Ihya, dans le chapitre qui est consacré à l'amour de Dieu. Et il nous dit donc « وَلِذَلِكَ لَمَّا قِيلَ لِرَابِعَ مَتَقُولِينَ فِي الْجَنَّةِ قالت الجار ثم الدار فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة. Lorsqu'on a demandé à Rabi'a comment elle perçoit le paradis, ce qu'elle peut nous dire du paradis, elle dit donc le voisin avant la maison, et lui il commente, ça veut dire que elle veut montrer par là qu'il n'y a dans son cœur pas de place pour le paradis, mais pour le maître du paradis, pour le créateur du paradis. Et Razali va expliquer un peu quel degré spirituel ça implique de dire ce qu'elle vient de dire là. Et il dit wa kullu man lam ya'rif Allah fi ad-dunya fala yarahu fi al-akhirah. Celui qui n'a pas connu Dieu en ce monde ne le verra pas dans l'autre. وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة. Et celui qui n'a pas pu goûter au plaisir de la connaissance de Dieu en ce monde ne pourra pas goûter au plaisir de voir Dieu dans l'autre monde. إذ ليس لأحد في الآخرة إلا ما لم يصحبه في الدنيا ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا يحشر المرء إلا ما على مات عليه ولا يموت إلا على ما عاش عليه. Ici il nous dit donc l'homme ne peut récolter que ce qu'il a semé et l'homme sera donc ressuscité en fonction de l'état dans lequel il est mort et l'homme va mourir en fonction du type de vie qu'il a eu. Donc ici Al-Ghazali il nous fait le lien entre ce qu'on vit ici et ce qu'on vit dans l'autre monde et il nous montre que tout ce qu'on va être amené à vivre dans l'autre monde dépend entièrement de comment nous vivons déjà maintenant. Il commence par dire que celui qui n'a pas la connaissance de Dieu ne verra pas Dieu. Et celui qui n'a pas eu un amour pour la connaissance de Dieu ne pourra pas goûter au bonheur de voir Dieu. Parce que, comme on le sait, hein, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le plus grand des plaisirs des gens du paradis sera la vision de Dieu, sera de pouvoir contempler la face de Dieu. C'est une joie et un bonheur qui dépassera de loin tous les délices du paradis. Et Razali nous dit oui, mais à condition que dès cette vie-ci, on se soit préparé à ça. Et comment on se prépare à la vision de Dieu, à la contemplation de Dieu sur terre? On s'y prépare par la connaissance de Dieu. Il faut connaître qui est Dieu, quelle est sa nature, quelle est son essence, quels sont ses attributs, etc. Et donc il nous dit pourquoi? Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. C'est une loi universelle de la création. Et donc il continue en disant, on sera ressuscité selon l'état dans lequel nous étions au moment même de la mort, au moment où l'esprit sort du corps. Et l'état que l'on a au moment où l'esprit sort du corps, et c'est la résultante de toute cette préparation qu'est la vie. En fait, c'est notre mode de vie, finalement, qui va déterminer cet instant crucial qui est l'instant de la mort. Voilà, donc il nous remonte à la chaîne des causes à effet pour nous dire que attendre le paradis, oui, bien sûr, mais il veut éveiller son lecteur au fait que ce qui se passera là-bas n'est que la résultante de ce que vous semez ici. Et donc c'est tout ça qui est contenu dans la parole de Rabi'a quand elle dit Al-Jar Thumma Ad-Dar. Elle voulait dire s'intéresser au paradis en soi n'a pas de sens. On s'intéresse, entre guillemets, où on porte de l'intérêt au paradis parce qu'il y a Dieu au paradis et parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc c'est d'abord Dieu qu'il faut placer en son cœur et ensuite les délices. Hein? Alors Razali va conclure en disant فَإِذَنْ نَعِيمَ الْجَنَّةِ لِقَدْرِ حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى. Donc les délices du paradis sont en fonction de l'amour qu'on a porté pour Dieu. وَحُبُّ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ مَعْرِفَتِهِ. Et donc l'amour de Dieu dépend ou découle de la force ou de l'intensité de notre connaissance, de la profondeur plutôt de notre connaissance de lui. فَأَفْضَلَ السَّعَادَةِ هِيَ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي عَبَّرَ الشَّرَعَ عَنْهَا بِالْإِيمَانِ. Donc il nous dit l'origine de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, de toutes les sources de joie, il nous dit c'est la connaissance. Et c'est cette connaissance spirituelle qui est désignée par le terme iman, foi. Alors, on voit donc que dans une seule de ces paroles, Razali tire beaucoup. Il tire beaucoup d'enseignements, il tire beaucoup de conséquences, il tire toute une doctrine même, hein, spirituelle, qui met au centre la connaissance. La connaissance fait naître l'amour, et l'amour engendre les bonnes actions, ou pousse aux bonnes actions. Mmh. Pour Razali, si on veut donc s'inspirer des exemples comme Rabi' al-Adawiyya, si on veut comprendre quelle était la force de son amour, il faut suivre une voie de connaissance, il faut chercher à connaître Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qui a amené Rabi'a à avoir un tel amour de Dieu? C'est la connaissance de Dieu. C'est parce qu'elle connaissait certains de ses attributs, elle avait compris la signification de certains de ses attributs, que elle a été amenée à lui accorder une telle place, elle a été amenée à le mettre avant toute chose, qu'elle a été amenée à considérer comme insignifiant toute autre chose qui est placée sur l'autre plateau de la balance. Mm-hmm. Quand on place Dieu d'un côté et qu'on le compare à toute autre chose, aussi précieux soit-il, comme le paradis par exemple, ça devient insignifiant. Mm-hmm. Voilà. Et c'est une connaissance. C'est la connaissance de la primauté de Dieu. La primauté, d'abord, le fait que il est l'absolue perfection. Et quel que soit le degré de perfection d'une créature, et le paradis est une création, quel que soit le degré de perfection d'une créature, c'est toujours insignifiant par rapport à l'absolue perfection de Dieu. Quel que soit le degré de beauté d'une créature, et le paradis certes a été créé pour être beau, sa beauté est toujours insignifiante par rapport à celui qui est la véritable beauté, Al-Jamal, qui est la beauté absolue même. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, comme a dit le prophète. Certes, Dieu est beau et il aime la beauté. Donc, quand on lui parlait des beautés du paradis, elle est trouvée insignifiante par rapport à celui qui est en lui-même la vraie beauté. Et là encore, elle rejoint un enseignement du prophète qui disait que le plus grand des dons que Dieu peut faire aux habitants du paradis, c'est de lui permettre de contempler sa face. Hein, il a même expliqué que certains pourront le voir rarement, certains pourront le voir de Jumu'ah en Jumu'ah, et certains pourront le contempler toujours. Ce qui veut bien dire qu'il y a des degrés aussi dans la contemplation. Et Razali nous dit que ces degrés, c'est parce qu'ils avaient réalisé déjà sur terre des degrés de connaissance de Dieu. Ils avaient compris la nature de Dieu, ils avaient compris et réalisé le sens de ses attributs.
Bien, voilà que l'on fait que Taïeb, on va s'opérer une courte pause, hein, 21h passées de 22 minutes, 03 20 73 59 00 mardi. N'oublie pas après le petit jingle, hein, pour rappeler qu'il y a week-end prochain une activité qui s'organise, hein, par la Ligue du Nord. Et tu nous as calé un peu de Qur'an, Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah.
La Ligue islamique du Nord, UEF Nord et ses partenaires régionaux ont l'honneur de vous convier à leur troisième rencontre annuelle des musulmans du Nord. Cette manifestation se déroulera le samedi 28 février de 9h à 23h à Lille Grand Palais sous le thème « Quelle place pour les valeurs morales dans nos sociétés modernes ?» Cette année, soirée spéciale Gaza avec la présence d'éminents savants tels que le Cheikh Abdallah Basfar et Cheikh Kamel Halbawi. Des conférences avec le philosophe Tariq Ramadan, Ahmed Jaballah et Omar Lasfar. Animation avec le groupe palestinien Al-Ihtisam, Moussa Mustafa, Abdel Fattah Aouinet et le groupe Al-Istiqama. Événement unique dans la région, ouvert à tous. Stands associatifs et commerciaux, animation pour les enfants et restauration sur place. Renseignements au 06 03 04 87 68. 06 03 04 87 68. Site internet www.ramn.fr. www.ramn.fr.
5, l'émission La Prophétie, tous les vendredis de 20h à 22h, donc on est ensemble sur là jusqu'à 22h, avec ce soir Taïeb Chouiref. Je rappelle, hein, pour les auditeurs et les auditrices, traduit ouvrage, je pense aux deux derniers tomes, les enseignements spirituels du professeur Salem aux éditions Tasnim. On l'a rappelé en début d'émission, hein, vous pouvez vous le procurer sur Amazon via l'internet, mais les bonnes librairies peuvent vous les fournir. Donc deux tomes, les enseignements spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux éditions Tasnim. L'émission ce soir, une biographie d'illustres personnages, et aujourd'hui Rabi'a al-Adawi, donc al-Adawiya, pardon, et l'amour de Dieu, donc une dame du deuxième siècle de l'Égypte, ça fait 1200 ans.
Exactement.
Et on a réussi à avoir un certain nombre d'anecdotes, de passages de sa vie, de grands savants tels que Razali, qui a rapporté un certain nombre d'anecdotes à son sujet. Mm-hmm. Est-ce qu'elle-même a produit des choses, si je puis dire? On a parlé brièvement au départ de poèmes qu'elle a pu faire.
C'est ça, exactement. En fait, ce qu'on a d'elle, ce sont donc des invocations, des poèmes. Et puis, enfin, quelques vers, hein, vraiment. Mm-hmm. Et puis, surtout, quelques anecdotes qui nous ont été rapportées par les gens qui les ont vécues. Voilà. Alors, pour le poème le plus connu de Rabi'a, c'est « Uhibbuka Hubbayn ». Il est très, très connu parce qu'il a été cité dans de très nombreux ouvrages de spiritualité musulmane. Plus connu aussi ces dernières décennies parce qu'elle a été chantée par Umm Kulthoum, la célèbre chanteuse égyptienne. Hein. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu un film fait sur sa vie en Égypte. Et puis, évidemment, pour chanter les poèmes de Rabi'a, on a demandé à la grande voix, Umm Kulthoum. Et alors, ce poème, c'est celui-ci. Uhibbuka hubbayn. Hubba al-hawa. Wa hubban li'annaka ahlun li'daka. Fa'amma alladhi huwa hubbul hawa. فشغلي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. Donc son poème, il dit en substance, hein, je t'aime de deux amours. Il s'adresse à Dieu, et il dit donc je t'aime de deux amours. Un amour passionnel et un amour dont tu es vraiment digne. Quant à l'amour passionnel, c'est que je suis occupé par ton rappel de toute autre chose que toi. Et quant à l'amour dont tu es vraiment digne, c'est que tu écartes les voiles afin que je puisse te voir. Mais aucune louange pour moi, ni dans le premier amour, ni dans le second, mais la louange à toi dans le premier amour et dans le second. Et alors donc, ce poème, d'abord, est un témoignage qu'elle fait sur son propre vécu, sur son propre ressenti. Et elle dit donc qu'elle aime Dieu de deux amours, et que le premier amour, elle l'appelle Hubb al-Hawa, l'amour de la passion, quelque chose qui est quand même de l'ordre passionnel. Et puis, donc, on pourrait dire un amour dans lequel il y a une part d'intérêt individuel. Et puis, l'amour dont tu es vraiment digne. Et là, on comprend effectivement que c'est un amour dans lequel elle ne recherche aucun autre intérêt que de glorifier Dieu, hein, et de magnifier Dieu. Alors Razali commente aussi ce poème dans l'Ihya, toujours dans le chapitre sur l'amour, chapitre qui a d'ailleurs été traduit en français. Il existe deux traductions de ce chapitre de l'Ihya sous le titre du livre de l'amour. Une traduction de Abdullah Penaud aux éditions Alif sous le titre le livre de l'amour. Et puis une traduction qui est parue en Algérie, à Alger, sous le même titre d'ailleurs, par un Irakien qui s'appelle Antoine Moussalli. En tout cas, donc, c'est accessible, hein, et vraiment je recommande au lecteur de lire ce chapitre de l'Ihya sur l'amour. Alors Razali commente dedans ce poème et il dit peut-être qu'elle a voulu dire par amour passionnel un amour qui est lié au bienfait que l'on peut recevoir quand on adore Dieu, à la récompense donc divine. Et il dit, quant à l'amour dont Dieu est vraiment digne, c'est l'amour de sa beauté et de sa grandeur, qui se dévoile au cœur de celui qui recherche sincèrement Dieu. Razali comprend ce poème dans ce sens-là, à savoir que ce dont le cœur peut être épris, c'est deux aspects de Dieu, c'est El Jamel et El Jalel, c'est la beauté et la majesté. Razali explique dans ce traité que quoi qu'on aime sur terre, dès qu'on aime même quelque chose, dès que l'on ressent de l'amour pour un être ou même simplement pour une chose, en fait ils nous disent c'est Dieu qu'on aime à travers cette chose, c'est un aspect ou un reflet très éloigné de la beauté de Dieu. Quand on aime la personne aimée, ou quand on aime un paysage, quand on aime telle et telle chose, c'est toujours parce que on retrouve dans ces créatures un reflet, même très éloigné, de celui qui les a créés. Et donc Razali nous dit, si on veut vivre vraiment l'amour, si on veut que l'amour soit vraiment quelque chose de porteur, il faut retourner à la source. Et la source de toute beauté, eh bien, c'est Allah. La source de toute grandeur, c'est Allah. Et il dit même qu'en vérité, à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on recherche, c'est toujours Dieu que l'on recherche. On est toujours dans une quête de Dieu. Mais certains le savent et l'assument, c'est le croyant, et d'autres ne le savent pas, c'est celui qui est voilé. hein, qui n'a pas la foi ou qui a une foi tiède, dira Al-Razali. Et encore une fois, donc pour Razali, l'exemple de Rabia est très important parce que elle nous montre avec force et précision que finalement elle vit l'amour que tout le monde recherche, que chaque être recherche. Elle est remontée à la source et elle ne confond plus la source et un reflet. Elle ne confond plus, si on veut prendre une image, le soleil avec son reflet dans l'eau ou dans le lac, quoi. Voilà. Et parce qu'elle dit en fait dans son poème, l'amour dont tu es vraiment digne, elle dit, فَكَشْفُكَ لِي الْحُجْبَ حَتَّى أَرَاكَ. C'est que tu enlèves de moi les voiles pour que je puisse te voir. Et qu'est-ce qu'elle appelle الحجب, les voiles? Ce sont les créatures. Les créatures, en fait, elles manifestent quelque chose de la beauté de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, mais on a tendance à oublier que justement la beauté qu'elle possède est empruntée. Les créatures ne possèdent pas, ne sont pas la source. Et comme on utilise, disons, ou plutôt on notre relation aux créatures est une relation où on ne remonte pas à la source, elle devient un voile, elle devient un barrage. Au lieu de nous permettre de remonter vers cette source, on s'y arrête et on s'y accroche et on s'y attache. Et donc pour elle, c'est le voile par excellence. C'est le fait d'être voilé de Dieu, de ne plus, de pas savoir passer des créatures au Créateur. Au lieu que ce soit un rappel, au lieu que chaque créature est une fonction de rappel, au contraire, elle a une fonction d'éloignement et d'obstacle. Et Razali, c'est bien que la plupart d'entre nous avons plus ou moins aussi cette tendance et ce penchant, à savoir d'être freiné et voilé par les créatures. Et oui. Et il la cite donc en exemple de celle qui a su dépasser le voile des apparences pour, à partir des apparences, remonter vers cette source. Et Razali cite souvent le fait que dans les versets qui nous demandent d'admirer la beauté de la création, l'harmonie dans la création, sont là pour nous, pas pour nous enfermer dans la création, mais pour nous faire remonter vers le Créateur. Mais en nous, nous avons cette tendance à s'accrocher à ce que l'on voit, parce que c'est là, parce que c'est immédiat, parce qu'on peut le toucher, parce que etc. etc. Et c'est une sorte de paresse de l'esprit, disons, de préférer ce que l'on tient plutôt que d'aller voir ce qui est derrière. Ça, on pourrait dire que le fameux proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » est un peu un proverbe que l'ego observe intuitivement, on pourrait dire. Il préfère ce qu'il a devant lui, parce que ça c'est concret et c'est réel, plutôt que ce qui est derrière les apparences, parce que ça demande un effort. Il faut surpasser ces apparences, et ça, il faut dépasser en tout cas plutôt ces apparences, et ça demande un effort spirituel. Il y a un djihad intérieur à faire. Et voilà, donc ce poème pour Razali est précieux à ce titre-là, en tant que rappel de ce dans quoi nous ne devons pas tomber, dans ce voile des apparences que nous devons dépasser. Peut-être qu'on a encore un peu de temps pour parler de la fin de sa vie et de sa mort, peut-être.
Alors, donc, elle a vécu combien de temps cette...
Alors, elle est morte en 185. Donc, si on admet qu'elle est née en 95
pour
de l'Égir, qu'elle est morte en 185
90
de
ans,
l'Égir, ça fait 90 ans, voilà.
De 90 années égiriennes, enfin années lunaires, parce que
voilà,
c'est
90 années lunaires. En tout cas, elle est morte en 801 de notre ère.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'est l'époque de Charlemagne, ça. Juste pour s'y retrouver un petit peu.
Très bien, oui, bien sûr, tout à fait.
C'est l'époque de Charlemagne.
C'est exactement ça, exactement. Et donc, elle a vécu, je l'ai dit tout à l'heure.
Donc ça fait une longue vie.
Longue vie, exactement. 90 ans à l'époque, c'est long, effectivement. Longue vie donc d'enseignement, d'adoration de Dieu, de transmission de son modèle à Basra et aux alentours. Et puis à la fin de sa vie, elle a donc très âgée, entourée de ses disciples, elle a un jour demandé est-ce qu'on la laisse seule. Donc son entourage a compris que bon, certainement qu'elle allait rendre son dernier souffle et qu'elle voulait être seule à ce moment-là. Et elle leur a demandé une chose particulière. Elle a dit laissez libre le passage à ceux qui vont arriver. Bon, alors ils s'en vont et à peine sorti de la maison, ils l'ont entendu réciter la shahada, donc la formule la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, formule qui est évidemment conseillée de dire dans les derniers instants de sa vie. Donc elle récitait cette shahada et les gens ont entendu une voix. Ils ne savaient pas d'où venait cette voix, réciter le fameux verset ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite de lui et agréée par lui. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Entre ainsi parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. C'est la fin de la sourate 89. Et donc encore une fois, on a encore là un exemple d'événement extraordinaire, quelque chose de surnaturel bien sûr.
Une karama,
tout à fait, où un ange a récité ce verset, mais a récité de manière audible, et les gens l'ont entendu, ce qui était l'annonce de son entrée au paradis, mashallah, ce qui est donc un grand événement tout de même. Et cet événement, c'est pas quelque chose seulement que quelques poignées de gens reconnaissent, c'est l'immense majorité des ulama qui citent cet exemple, cette anecdote, comme la fin d'une vie pieuse et sincère et spirituelle. Et par exemple, quelqu'un comme Ibn Kathir, qui est connu pour être quelqu'un de très mesuré, de très pointilleux sur ses sources, et quand il n'est pas sûr d'une source, il ne citera pas du tout, à tel point que certains trouvent que ses textes sont un peu secs, mais qu'il y a une certaine sécheresse dans ses écrits, parce qu'ils disent que bon, il est tellement pointilleux sur ses sources que finalement il cite peu de choses. Bon, en tout cas, il a au moins le mérite de la rigueur, d'où l'intérêt de ses textes, et il a consacré lui aussi une notice à Rabi' al-Adawiyya dans son grand livre qui s'appelle Al-Bidaya wa-Nihaya, qui veut dire le début et la fin. C'est en fait une histoire universelle qui commence depuis la création d'Adam jusqu'à son époque.
D'accord.
Il a écrit, donc il y a des milliers et des milliers de pages, une histoire qui relate tout ce qu'on savait à l'époque de l'histoire de l'humanité.
Mais de façon rigoureuse, c'est-à-dire source à l'appui.
Avec les sources les plus sûres qui étaient à sa disposition. Et donc, dans sa notice sur Rabi'a, il rappelle que donc il y a eu cet événement surnaturel à sa mort, et il rajoute aussi que beaucoup de gens l'ont vu en rêve après sa mort, et que ce qu'on appelle Ru'ya Saliha, donc le rêve véridique, c'est, on le sait, c'est un 46e de la prophétie. Donc beaucoup de gens ont eu des visions pieuses de Rabi'a. Certains lui ont même posé des questions, et on a le témoignage de sa servante. Quand on dit servante, c'est une jeune femme qui s'est attachée plus spécialement à elle, à son service, une disciple on va dire proche, qui l'a servi durant toute sa vie, et après sa mort elle l'a vue en rêve, et elle lui a demandé indique-moi une action qui puisse me rapprocher de Dieu. Et Rabi'a lui a dit, donc dans ce rêve, dans cette vision pieuse, invoque Dieu souvent et abondamment. Uzkurillah kathiran. Cette invocation sera pour toi un réconfort dans la tombe. Donc cette servante qui a été proche d'elle et qui a vécu les dernières années de la vie de Rabi'a lui demande un conseil. Quel conseil elle lui donne? Le conseil, on pourrait dire que le prophète a donné à un homme qui est venu le voir pour lui dire Ya Rasulullah, ô envoyé de Dieu, les prescriptions de l'islam sont nombreuses pour moi, indique-moi quelque chose auquel je puisse m'attacher. Et comme on le sait, il lui a dit Yazal lisanuk ratban min dhikrillah, que ta langue reste toujours humide par l'invocation de Dieu. Là, on peut dire qu'effectivement, c'est la même chose. Elle lui demande un conseil auquel elle puisse se raccrocher et devenir proche grâce au conseil de Dieu. Et elle lui dit donc, invoque Dieu abondamment et souvent. C'est-à-dire, essaye de consacrer à Dieu des moments d'invocation, des moments où tu vas l'invoquer. Que ces moments soient réguliers et que ces moments soient les plus fréquents possibles. L'invocation, donc, c'est un mot général, un zikr, pour désigner toute forme de rappel de Dieu. C'est en fait la répétition de formules sacrées, souvent tirées du Coran ou bien enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par lequel le croyant donc va répéter ces formules et par la répétition, il va être dans le recueillement. Il va en même temps méditer ce qu'il dit, s'imprégner le plus possible du sens de ce qu'il est en train de dire, pour que les paroles puissent être une porte vers la proximité de Dieu. Par exemple, ce qu'on appelle le zikr ibrahimi, l'invocation d'Ibrahim, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc, ces quatre formules qu'on peut donc répéter un certain nombre de fois, quand on dit Subhanallah, donc gloire à Dieu. Évidemment, on peut le dire comme ça parce que c'est recommandé de le répéter. Mais on peut aussi essayer de méditer ce qu'on dit. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces quatre formules, donc gloire à Dieu, louange à Dieu, il n'est de Dieu que Dieu, et Dieu est plus grand. Ces quatre formules, si on les médite bien, on voit qu'elles résument tous les enseignements spirituels du prophète. On voit qu'il résume tout ce qu'il a enseigné sur Dieu, sur qui est Dieu et sur son rapport, sur le rapport qu'il faut instaurer avec Dieu. Quand on dit Subhanallah, donc gloire à Dieu, c'est-à-dire que l'on reconnaît que seul Dieu est digne d'être magnifié, d'être glorifié. Seul Dieu est digne parce qu'il est la source de tout ce qu'on peut voir de beau et de grand. Et donc dire Subhanallah, c'est encore une fois ne pas vouloir être voilé par ce qui peut être grand autour de nous et dans la création, mais dépasser la grandeur des créatures pour se replonger dans la grandeur du Créateur. Quand on dit Alhamdulillah, louange à Dieu, même chose, on reconnaît que les bienfaits qui nous reviennent, les bienfaits dont on vit tous, et aucun être humain n'est privé de bienfaits, comme le rappelle Ibn Ata'Allah, il dit que le premier des bienfaits, c'est l'existence. Le simple fait d'exister est un bienfait. Au-delà même de se demander est-ce que l'existence qu'on a est bonne ou difficile, est facile ou pas, est agréable ou désagréable, il dit ni'matul ijad, le bienfait de l'existence, d'être tiré du néant pour exister. C'est déjà un bienfait qui est énorme. Quand on dit donc Alhamdulillah, on reconnaît donc, ou on se replonge en tout cas, dans cet état de gratitude qui devrait être celui donc du croyant, dans le shukr. La ilaha illallah, en répétant cette formule, on se souvient qu'on a toujours tendance à diviniser des tas de choses, c'est-à-dire accorder une place beaucoup trop importante à ce qui n'en a pas, et à perdre du coup le sens des proportions. On va être complètement submergé par tel ou tel problème, pas parce que c'est insurmontable, mais parce que nous avons donné une place tellement grande à ce problème que du coup on y est noyé. Et quand on dit la ilaha illallah, on relativise tout, et on se dit non, ça n'est pas telle et telle chose n'est pas digne que je m'y attache. L'argent n'est pas, par exemple, une fin en soi. Ça ne doit pas diriger ma vie. Si l'argent dirige une vie, il devient la divinité de cette vie. Parce que qu'est-ce qu'une divinité? C'est ce qui dirige notre vie. C'est pour ça que le Coran nous dit « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Pas forcément dans le sens où il va construire une idole en terre, voilà. Pas forcément, simplement le fait que sa vie soit dirigée par la passion. Si le matin, en se levant, son premier objectif est d'aboutir à sa passion, eh bien c'est sa divinité. Et donc, se rappeler, la ilaha illallah, invoquer la ilaha illallah, c'est sortir de cette tendance humaine à diviniser ce qui ne doit pas être divinisé. Et puis, enfin, donc, Allahu Akbar, c'est reconnaître que en dehors de Dieu, rien n'a de grandeur. Tout est relatif. En dehors de l'absolu, tout est relatif. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à garder en tête que ce qui est relatif, c'est-à-dire ce qui est créé, ce qui est éphémère, ce qui est temporaire, eh bien, par définition, il est temporaire. Mais on a tendance encore à l'oublier. Mmh. Et on agit avec les choses comme si elles étaient éternelles. Donc, le zikr, ce n'est pas une répétition mécanique comme ça, où on se dirait, bon, je vais répéter 100 fois ces formules parce qu'on a tant de hasanat à le faire. Et certes, il y a, je veux dire. Mais c'est s'imprégner du contenu, s'imprégner de la signification de ces formules, et aussi, et ça on l'oublie souvent aujourd'hui, de la baraka de ces formules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces formules, elles ont certes une signification, qu'on peut expliquer, ce que j'ai tenté de faire ici en quelques minutes, mais elles ont aussi une baraka particulière, une vertu particulière. Elles ont une puissance de transformation. Pourquoi? Parce que elles relèvent de la révélation. Ce sont des formules révélées. Mmh. C'est pas l'homme qui a inventé, qui s'est dit pour le monothéisme je vais te donner telle formule. C'est une formule révélée. C'est-à-dire que les mots, ils ont un impact en eux-mêmes, ils ont une force spirituelle en eux-mêmes, au-delà même du contenu. Et cet impact, il est transformateur. Je veux dire, quand on récite la ilaha illallah et qu'on s'en imprègne pas par le sens, mais les sonorités même, elles jouent sur notre âme, elles apaisent l'âme. D'ailleurs, la formule La ilaha illallah, elle est écrite qu'avec les lettres du nom Allah, c'est-à-dire Alif, Lam et Ha. Et les mystiques de l'islam rappellent souvent que La ilaha illallah, en fait, c'est l'équivalent du nom Allah, mais explicité. C'est la formule développée, diraient les chimistes, du nom Allah. En fait, elle ne contient que les lettres du nom Allah. C'est tout à fait étonnant. Mm-hmm. Et donc, pratiquer le zikr, c'est ça aussi. C'est se plonger dans des sonorités révélées, dans une harmonie du son qui est révélée, qui apaise notre âme, qui nous fait rentrer dans un certain rythme. Le rythme donc des mots révélés, et il ne faut pas négliger l'impact que ça a sur le cœur. C'est ce qui explique aussi que parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout l'arabe et qui sont touchées par la récitation du Coran et qui vont être vraiment émues et pleurer alors qu'ils ne comprennent pas les mots. Ça veut dire qu'au-delà des mots, les sonorités révélées ont un impact sur le cœur, et ça c'est très très frappant dans le zikr. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à pratiquer le zikr, bon, on répète la ilaha illallah, on plus ou moins concentré, on pense plus ou moins à autre chose, et puis au fur et à mesure on voit que cette formule la ilaha illallah commence à toucher le cœur, le cœur commence à en être imprégné, et c'est comme si on rentrait dans le rythme de cette formule, et là le zikr devient profond. On entre dans un zikr qui est profond. Et voilà, donc le fait que Rabi al-Adawiya rahimahullah a insisté auprès de sa servante sur cet ultime conseil, montre bien le caractère essentiel du zikr, le caractère central même du zikr. Et Allah nous dit wala zikrullahi akbar, et l'invocation de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. On voit bien qu'il y a quelque chose de très central ici dans l'invocation, dans cette pratique, dans laquelle l'exemple de Rabi'a nous rappelle que le croyant doit essayer dans son quotidien, au jour le jour, de consacrer un peu de temps, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour cette pratique fondamentale qui est le dhikr.
Bakr Fektayeb, pour ces grands rappels, avec pour bien sûr exemple ici cet illustre personnage qui est Robert Adawi, Adawiyak, donc et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. 22h passées de 2 minutes, on va passer le relais à l'émission Safina qui vient d'arriver. Tayeb, tu es toujours bienvenu.
Shukran.
On se retrouve a priori les troisièmes mois de voilà, pardon, les troisièmes vendredis de chaque mois.
De chaque mois, c'est ça.
Et donc d'ici un petit mois, on se retrouvera sur le plateau de Pastel FM. Je rappelle notamment les deux derniers ouvrages qu'on peut se procurer sur l'enseignement spirituel du professeur Salam en deux tomes aux éditions Tasnim Faisal, c'est ça.
Tout à fait. Et il faudrait également rappeler que demain Tayeb intervient dans le cadre d'une émission, d'une réunion islamo-chrétienne au centre spirituel du Haut-Mont, à Mouveau.
D'accord.
Malheureusement, je n'ai pas les coordonnées avec moi, mais on peut essayer
de
trouver.
Tout en haut de la rue Mouveau, quand on va vers, oui, centre spirituel du Haut Mont, bon, je pense que c'est assez connu.
Demain, à 14h.
14h, d'accord. Demain, 14h. Donc, c'est la rencontre islamo-chrétienne. J'ai Farid, bienvenue à toi, qui me fait un petit rappel. Je comprends pas forcément ce que t'as dit, mais, bah, viens le dire directement au micro. Vas-y.
Donc, c'est une conférence organisée par l'association AMEL. Une conférence parents-enfants, rapport et transmission des valeurs. Donc l'intervenant c'est Ahmed Mektar, 83 Faubourg des Postes. Donc la salle se situe à côté de la mairie de... Enfin, elle est collée à côté de la mairie du Sud à 14h30. Et l'entrée est gratuite. La station AMEL.
C'est quand ça?
Demain.
Donc ça a concurrencé l'intervention de d'Ayeb au centre du Haut Mont pour un échange islamo-chrétien. Je rappelle le week-end prochain, Mahdi, mets-nous le jingle sur le rassemblement annuel des musulmans du Nord, donc organisé par la Ligue du Nord. Hein, une journée complète. On va s'écouter le jingle. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, a priori avec Cheikhouna Hassan et Kyusen, puisque lui intervient les quatrièmes vendredis de chaque mois. Restez à l'écoute de Pastel FM 99.4 puisque vous allez donc prendre le relais de notre émission avec l'émission Safina qui est proposée par la JMF section Tourcoing, donc sur la culture du chant religieux. Portez-vous bien et à très bientôt. Inch'Allah,
à bientôt. Pastel FM.
Pastel FM. Pastel FM.
Pastel FM.
Pastel FM.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission, animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif, vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontres et Dialogues. And we owe it to show gratefulness.